Make some noise.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Derrière, l'objectif.
L'objectif.
Derrière l'objectif.
Être journaliste, c'est pas résoudre des équations mathématiques, hein. C'est être face à des gens paradoxaux, imparfaits, essayer de saisir leurs pensées, pouvoir construire un récit tout en ne mentant pas. La réalité, on peut pas l'arranger. Soit on a vu ce qu'on a vu, soit on l'a pas vu.
Grand reporter, Annie va parcourt le monde et ses guerres depuis la fin des années 90. Également écrivain, Annie va, qui a notamment reçu le prix Albert Londres en 2000 pour Chienne de guerre, une femme reporter en Tchétchénie, publie aujourd'hui sa première fiction en bande dessinée, Dans la gueule du loup, en collaboration avec le dessinateur Horn et Jean-Marc Thévenet aux éditions Marabule. Pour ce premier épisode du podcast Derrière l'objectif, Anniva a accepté de partager avec nous une expérience marquante de sa carrière. Nous sommes en 1999, en Tchétchénie.
Je m'appelle Anniva et je travaille pour ceux qui me lisent. Je suis grand reporter. On est en 1999 et on part pour une petite république du Caucase qui s'appelle la Tchétchénie.
Les autorités russes se défendent de vouloir lancer une offensive d'envergure contre la Tchétchénie. Reste que dans les faits, les bombardements contre cette république indépendantiste se sont poursuivis aujourd'hui pour la troisième journée consécutive, détruisant des centres stratégiques.
La démarche s'inspire bien de la guerre du Kosovo. Frapper la Tchétchénie pour l'obliger à livrer les chefs de guerre islamistes Basayev et Khatab, qui deux fois en deux mois ont tenté un coup de force au Daghestan voisin. La Russie les tient pour responsables de la série d'attentats qui a fait près de 300 morts depuis le 31 août et elle est déterminée à les pourchasser où qu'ils se cachent. Nous poursuivrons les terroristes partout, à l'aéroport s'ils sont à l'aéroport et excusez-moi, s'ils sont aux toilettes, on ira les buter dans les chiottes. Cette sortie inhabituelle du Premier ministre s'explique sans doute par le traumatisme des attentats. La Russie est-elle prête à se lancer dans une nouvelle invasion de la Tchétchénie ?
Je pars là-bas parce que je sens qu'une guerre est en train de se préparer et que cette guerre se situe sur un territoire qui est celui où je suis arrivée à peine quelques années auparavant comme jeune journaliste spécialisée sur la Russie, puisque je parle russe comme je vous parle le français, donc je n'ai pas besoin d'interprète en Russie. Et c'est un immense territoire, la Russie. Il y a plein de choses qui se passent tout le temps. C'est le but du reporter, c'est d'essayer de se rendre dans des endroits et de relater justement la situation. Et là, on est au début de l'automne 1999, à un moment où ça sent mauvais, c'est-à-dire on sent qu'il y a des mouvements de population à l'intérieur de la Tchétchénie et des républiques voisines de la Tchétchénie, à l'intérieur de la Russie, hein, tout ça. Et quand il y a des mouvements de population, généralement, ça veut dire que les gens ont peur, qu'ils vont partir. S'ils partent, c'est qu'ils ont des raisons. Et il y a les forces militaires russes qui envahissent la petite Tchétchénie. Et un mois plus tard, je me dis, il faut y aller. J'ai juste suivi mon instinct. Il me faut, bien sûr, comme tout reporter de terrain, quand il arrive sur le terrain, il faut trouver des informations. C'est-à-dire, il y a ce que le reporter voit lui-même, parce que déjà, quand on va sur le terrain, on voit des choses, on observe, mais on a besoin d'interlocuteurs. On a besoin de parler à une multiplicité de sources pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et je fais la rencontre, quelques semaines plus tard, d'un jeune homme qui s'appelle Mahmoud, qui avait combattu pendant la première campagne russo-tchétchène. Et je lui dis, si tu veux m'accompagner dans la guerre, ou que je t'accompagne, parce que c'est mutuel finalement, il ne faut pas que tu sois combattant. Et tu ne dois pas avoir d'armes avec toi. Mahmoud, je le rencontre à travers d'autres personnes, bien sûr, comme c'est souvent le cas. Hein. On tire un fil qui vous amène à une personne, qui vous amène à une autre personne, etc. C'est le début d'une grande aventure qui dure jusqu'à aujourd'hui, puisque cette personne, je la connais encore aujourd'hui, elle fait encore partie de ma vie, bien sûr. Moi, je lui dis, voilà, moi, je voudrais essayer de me faufiler entre les différentes lignes de front. Je voudrais interroger des combattants, mais également aller dans des familles. Je voudrais vivre cette guerre au plus près pour pouvoir la raconter. Et ensuite, on décide ensemble de où on va, ce qu'on fait, au gré de ce qu'il me dit qu'il est possible de faire ou pas. Mais généralement, rien n'est impossible. Et donc, quand on a le temps, on peut arriver à attendre le meilleur moment pour pouvoir passer d'un point A à un point B. Parce que dans la guerre, c'est ça le principal problème. C'est se mouvoir, se déplacer. Là, en Tchétchénie, à ce moment-là, on pouvait quand même encore bouger avec Mahmoud au volant, de cette Jeep rouge défoncée. Je me rappelle très très bien, il y avait du carton en guise de pare-brise arrière. Mais elle nous a quand même sauvé la vie, cette Jeep. Et nous voilà en train d'essayer d'aller dans des villages pour essayer de comprendre où est la ligne de front, où sont les forces militaires russes, où elles se placent et comment vivent les villageois dans les endroits où l'armée est en train de se placer. C'était le début d'une grosse vague de bombardements d'artillerie lourde, d'artillerie légère, tout ça, je l'ai subi, et évidemment de bombardements aériens. Mais quand je suis dans cette voiture, Mahmoud voit, et les autres hommes qui étaient dans la voiture, on était 5 ou 6, que les Russes, les militaires russes, sont en train de monter une position. Juste au moment où on passe, c'est-à-dire juste à l'endroit où nous avons décidé de passer, croyant être tranquilles, ils sont en train de monter une position. Alors, ce qui est intéressant, mais tout ça je ne le savais pas, c'est que les militaires d'une armée régulière agissent sur ordre. Donc, ils mettent du temps avant de monter leur position. Et c'est grâce au fait qu'eux mettent du temps et que nous, on est très rapide, qu'on arrive à passer. Et donc, j'ai simplement le souvenir que Mahmoud dit aux autres, protégez-la. Et ils se mettent, les hommes qui étaient là, Amin Mahmoud, se mettent tout autour de moi physiquement dans la voiture, derrière, puisque j'étais sur la place arrière, au milieu, pour me protéger au cas où les Russes décideraient de tirer. C'était ça, en fait, le but. Sauf qu'ils n'ont pas tiré parce qu'ils étaient en train de monter leur position. Ils étaient très occupés à monter cette position. Dieu merci pour nous. Mais ils nous ont vu passer. Ils nous ont vu passer et Mahmoud, par souci, par égard pour moi, a décidé cela. Tout ça, je l'ai compris qu'après. Et donc, quelques minutes plus tard, on a terminé cette grande descente. On est arrivé dans un chemin de terre vers une ferme. Et on est descendu de voiture. Il y avait un auvent. On est rentré sous cet auvent. On est descendu dans une cave. La ferme était inoccupée. Les paysans étaient partis. Et elle était occupée par des combattants, des pendentistes, qui étaient en train de se rassembler et de rassembler leurs armes. Et donc là, j'ai pu voir leur campement. Et puis, je me rappelle, je suis ressorti à l'extérieur pour pouvoir utiliser mon téléphone satellite. Parce qu'un téléphone satellite, c'est très bien, mais ça ne marche pas à l'intérieur. Et je me suis assise sur un petit muret. Je me rappelle très bien, il faisait très très beau. C'était un temps d'automne exceptionnel avec un ciel limpide, bleu. Un temps à bombardement, en fait. Ça aussi, je l'apprendrai plus tard. C'est que quand il fait très beau, c'est beaucoup plus facile pour les pilotes des avions, des hélicoptères, de lâcher leurs bombes là où ils ont envie de les lâcher. Et j'ai appelé Libération, je crois que j'ai appelé le journal, pour dire que tout allait bien, que c'était formidable. Il y avait les oiseaux qui gazouillaient. Et puis, j'ai parlé, je ne sais pas combien de minutes, mais peut-être 10 minutes. Et tout d'un coup, le ciel s'est assombri. Et j'ai à peine levé les yeux au ciel. Et c'était déjà trop tard. Il était noir d'hélicoptères. D'hélicoptères de bombardiers qui allaient nous bombarder. Et tout d'un coup, j'ai vu Mahmoud qui venait me prendre sur le muret. Il m'a saisi. Le téléphone satellite est tombé par terre. Moi, je voulais le récupérer. Il m'a dit non, rentre. Les autres combattants étaient en train de pousser la voiture avec laquelle on était arrivé sous l'auvent. Pour pas qu'elle soit vue, mais c'était déjà trop tard. Et on est descendu dans cette cave où il y avait le campement. Et là, j'ai vécu mon premier bombardement. Je me rappelle, je fumais cigarette sur cigarette. Je tremblais, j'allumais une cigarette, je la fumais, puis elle se terminait, puis j'en allumais une autre. Et puis, il y avait cette effervescence dément de Mahmoud et les autres que je voyais fourbir leurs armes, aller chercher les missiles à l'épaule. Et puis, ça a commencé à tirer, c'est-à-dire qu'on était sous un feu très dense. Donc, c'était mon baptême du feu, oui, voilà. C'était vraiment mon premier bombardement. Je faisais les 100 pas, là, dans cette cave, en bas, avec la jeune femme qui était restée là, qui leur faisait l'intendance, entre autres. C'était aussi une combattante. Et je me rappelle, il y avait cet escalier qui montait. Alors, il montait, il descendait l'escalier à toute allure. Et puis, je voyais ces lueurs. J'entrevoyais le ciel orange, les éclats. Il y a un éclat d'armes, de missiles brûlants qui est arrivé jusqu'à moi, jusqu'en bas de l'escalier. Ils ont commencé à jouer au foot avec. Et je me rappelle aussi du son, le son énorme. J'avais l'impression que mes tympans allaient éclater. On a l'impression que c'est ça qui va nous tuer. C'est comparable à rien d'autre. Et ça a duré, je sais pas, je dirais une heure, une petite heure, qui m'a semblé très longue. Mais quand les hélicoptères sont repartis, je me souviens que je me suis dit « mais c'est dingue, on est encore vivants ». Et tout d'un coup, il y avait encore immédiatement les oiseaux qui chantaient, comme juste avant. C'est-à-dire qu'on avait l'impression d'avoir rêvé, quoi. Mais c'est ça, la nature, la vie sur Terre reprend toujours ses droits, elle revient immédiatement au statu quo hanté, quoi. C'est-à-dire, il y avait juste eu un bombardement, mais on était revenu après le bombardement à comme si c'était avant. Sauf que là, de là où nous étions, on pouvait, aucun d'entre nous n'était mort. Il n'y avait pas eu d'impact direct sur là où nous étions, mais il s'agissait de savoir s'il y en avait eu alentour. Et il y en avait eu. Il y a eu des morts parmi les combattants qui, en fait, quand on était dans cette ferme, on était très près de la première ligne de front. La guerre ou son extrême violence, l'irruption d'une grande violence, mais qui est une violence inimaginable pour ceux qui ne l'ont pas vécue. Inimaginable. C'est-à-dire la quasi-certitude de sa propre fin. C'est ça que vivent les gens sous des bombardements aériens, et donc que j'ai vécu à plusieurs reprises. Mais ça passe. Le bombardement, il s'arrête. Et la vie reprend exactement comme avant. Mais c'est pour ça que j'ai toujours raconté, en fait, tous mes livres racontent finalement la même chose. Et mes articles, c'est la vie dans la guerre. C'est-à-dire, et ce que j'aime dans la guerre, c'est pas la guerre, c'est la vie. Mais la vie, c'est ce que j'aime de toute façon. Là aussi, c'est ma façon de pratiquer le journalisme. C'est d'appuyer toujours sur le côté profondément humain. Être journaliste, c'est pas résoudre des équations mathématiques, hein. C'est être face à des gens paradoxaux, imparfaits, essayer de saisir leurs pensées, pouvoir construire un récit tout en ne mentant pas. La réalité, on peut pas la ranger. Soit on a vu ce qu'on a vu, soit on l'a pas vu. Si vous voulez, après avoir vécu tout ça, comme je peux dire maintenant a posteriori que j'ai commencé par la pire des guerres, parce que la Tchétchénie, c'était vraiment la pire. C'était la pire parce que le théâtre d'opération était minuscule et que c'était l'armée russe. C'était pas une coalition internationale. Donc c'était l'armée russe, donc c'était un tapis de bombes, c'était à huis clos, c'était... Enfin bon, ça cochait toutes les cases, quoi. Mais ça aussi, je l'ai pas compris avant longtemps dans ma vie. Ça a changé ma vision de la vie pour toujours. C'est-à-dire que, à part de ma propre mort, je vois pas de quoi je peux avoir peur aujourd'hui. Hein. Ayant vécu tout ça.
Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.